Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Aujourd'hui, je vous parle de la très discrète disparition de Daniel Boisvert.
Et moi, je vous raconte l'incroyable combat judiciaire de M. Régent Hince.
Vous écoutez le balado Captive. Aujourd'hui, je te présente le plus vieux cas que j'ai couvert jusqu'à maintenant. Ouais, je trouve ça difficile de couvrir des cas plus vieux parce que, bon, c'est évidemment plus compliqué de trouver des infos, hein? On dirait que les disparitions se retrouvaient souvent étiquetées comme simples faits divers à cette époque-là. Puis, bien souvent, on mentionne nulle part les circonstances ou même le drame tout court, ce qui devient assez frustrant. Bon, pas juste pour mes recherches, mais pour la victime. Je comprends toujours pas, à ce jour, comment c'est possible de disparaître de la surface de la Terre, littéralement, et d'attirer si peu ou pas d'attention du tout. Après 3 saisons, là, c'est toujours aussi choquant pour moi de faire ce constat-là. Je trouve ça difficile aussi d'aborder les cas les plus vieux de disparition parce que, je vais le dire honteusement, là, mais en toute transparence, des fois, j'ai peur d'ennuyer les auditeurs. Je me sens bien poche de penser une affaire comme ça parce que, bon, nos chers auditeurs, on vous aime d'amour, là, vous le savez, mais Captive doit servir avant tout les victimes. Sinon, là, on se résume à être un pur divertissement, puis moi, je suis pas super à l'aise avec ça. Je veux que Captive, ce soit plus que ça. Je veux que nos histoires servent de devoir de mémoire pour les événements terribles et les victimes du Québec. Bon, je sais que j'ai l'air de jouer à la police de la moralité, là, du haut de mon petit balado True Crime, mais c'est vraiment pas ça. Je vous parle en toute franchise, simplement. Puis bon, la disparition que je couvre aujourd'hui, là, elle n'a rien de spectaculaire. Elle n'a pas de revirement choc, elle n'a pas de suspect établi qu'on va se plaire à haïr tout le monde ensemble. C'est juste l'histoire déchirante d'une jeune fille qui était là, puis qui, du jour au lendemain, a juste cessé d'être là. Aujourd'hui, je te parle de la trop discrète disparition de Daniel Boisvert. Annie, comme je te disais en intro, Daniel Boisvert, c'est un cas très, très peu médiatisé. Un des pires que j'ai survolé jusqu'à maintenant. Ma principale source sera encore l'épisode de Nos enfants disparus, qui lui est consacré, toujours disponible d'ailleurs, sur le site de ADR-TV. J'ai été quand même étonnée de rien trouver de plus sur Daniel parce que pour quiconque côtoie les listes et les histoires des personnes disparues du Québec, je refuse de penser que je suis la seule, le doux visage de Daniel est quand même assez familier. Je te montre sa photo. Est-ce que tu l'as déjà vu quelque part?
C'est ça, mais déjà le nom, moi, me sonne une petite cloche, là, mais non, pas tant sa photo, malheureusement.
Daniel Boisvert est né le 29 janvier 1961 et en 1979, elle a donc 18 ans. Elle est la troisième d'une famille de 6 enfants et à ce moment-là, elle habite à Montréal-Nord avec son copain, plus précisément au 11033 avenue Larchevêque. Elle travaille depuis quelque temps déjà dans une usine de textile à Ville-Saint-Laurent. Ce qu'il y a de particulier ici, c'est que plusieurs membres de la famille de Daniel travaillent aussi dans cette usine. J'ai l'impression que c'est un peu une longue tradition, là, tu sais, un travail à bon salaire où la tante fait rentrer la nièce, qui elle fait rentrer la sœur, qui elle fait rentrer son amie, là, bref, tu vois le genre.
Oui.
Chaque matin, c'est la même routine. Leur tante passe chercher la grande sœur de Daniel, puis toutes les deux passent chercher Daniel avant de finalement se rendre au travail toutes les trois ensemble. C'est comme ça que ça aurait dû se dérouler le matin du mercredi 7 novembre 1979. Mais pourtant, il va en être tout autrement. Ce matin-là, Danielle attend pas devant chez elle comme d'habitude quand les filles arrivent pour la prendre. Les deux femmes restent quelques minutes à attendre dans la voiture en marche et voyant que Danielle ne descend toujours pas, la tante envoie quelques coups de klaxon. Toujours rien. La tante s'impatiente et décide de monter voir ce qui se passe. C'est là qu'elle est reçue par l'amoureux de Danielle qui semble, disons, amoché là, ou à peine réveillé. Il explique mollement à la tante de Danielle que Danielle n'est pas là, qu'elle n'est pas rentrée la veille et qu'il n'a aucune idée d'où elle est. Est-ce que son chum, tout juste tiré du lit, venait à peine de se rendre compte lui-même que Danielle n'était pas là? C'est possible. C'est difficile de savoir exactement comment les choses se sont enchaînées à partir d'ici. Mais on est à une autre époque, hein? Bien avant l'ère numérique. Je pense qu'on devait être beaucoup plus patient et peut-être aussi moins prompt à sauter aux conclusions quand quelqu'un omettait un rendez-vous ou passait quelques jours sans donner de nouvelles. Fort probablement que ce matin-là, les deux femmes sont allées travailler quand même. Possiblement même plus irritées qu'inquiètes. Il faut dire qu'à cet instant précis, elles ne savaient pas comment s'était déroulée la soirée de Danielle, celle de la veille, celle du 6 novembre 1979. Ce soir-là, Danielle décide de sortir avec quelques amis dans une brasserie, pas trop loin de chez elle. La brasserie Bourget, à ce moment-là, qui est aujourd'hui la brasserie Montréal-Nord. Située au 5700 Boulevard Industriel, l'établissement est à 1,4 km très exactement de l'appartement de Danielle. On parle d'un trajet d'une vingtaine de minutes à pied ou d'à peine 5 minutes en voiture. Encore aujourd'hui, si on regarde les photos sur Google, Annie, je te montre, c'est vraiment en plein cœur d'un quartier industriel. J'imagine que c'était peut-être même pire à ce moment-là. Oui. Hey, en soirée, là, ça devait être assez désert comme quartier, disons.
Ça a vraiment un look de typique brasserie, hein?
Complètement. Selon le documentaire « Nos enfants disparus », Danielle part vers la brasserie avec son amoureux, mais en cours de route, le couple se querelle et l'amoureux de Danielle décide finalement de rebrousser chemin et de rentrer à l'appartement. Je sais pas il est quelle heure exactement à ce moment-là, mais je sais que Danielle, elle continue sa route et passe la soirée avec des amis à la brasserie, comme prévu. Vers 23h30, le serveur appelle un taxi à la demande de Danielle. Il est l'heure de rentrer. Danielle enfile son manteau en jeans et pousse la porte du bar, le menton bien enfoncé dans son collet, prête à affronter le froid de la nuit de novembre. Danielle Boisvert a plus jamais été revue depuis ce moment-là. Elle s'est littéralement volatilisée à la seconde où elle a franchi la porte de la brasserie Bourget. Curieusement, on n'a pas réussi à savoir si elle est montée dans un taxi ou non. Il semble que l'enquête à cette époque-là n'ait pas réussi à confirmer hors de tout doute qu'un taxi était bien venu la prendre à la sortie du bar. Mais il me semble pourtant là, que c'est quand même assez aisé de retracer l'appel. Ouais.
C'est bizarre, ça.
Oui, de savoir quelle voiture est dispatchée sur la course.
Mais oui.
Mais bon, il semble qu'ici, on ne sait rien. La trace de Danielle s'arrête juste là, sur le pas de la porte de la brasserie Bourget. Enfin bref, Annie, durant les jours qui suivent, la famille s'inquiète pas outre mesure parce que, selon eux, Danielle est probablement en train de faire ce que bien des jeunes de son âge font, hein? Vivre sa vie, simplement, avec insouciance. C'est difficile de bien saisir qui était Danielle parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup d'informations sur sa personnalité, mais semble que ses proches la croyaient chez une amie, probablement en train de digérer la chicane qu'elle a eue avec son amoureux. On sous-entend l'instant d'une toute petite seconde dans le documentaire aussi que Danielle, comme bien des jeunes de l'époque, avait peut-être consommé quelques fois des drogues dures, cocaïne, j'imagine, tu sais. Donc, j'ai comme l'impression qu'il la pensait un peu partie sur une dérape, un truc du genre, tu sais. Mais ça, c'est vraiment mon feeling, là. Il n'y a rien qui est dit en ce sens-là.
Et Michel, est-ce qu'on sait dans quel état d'esprit elle a quitté ses amis à la brasserie? C'est bizarre.
Mais oui, ce qu'on sent durant le documentaire, c'est vraiment qu'il n'y avait rien de spécial, qu'il n'y avait rien de particulier ce soir-là.
OK.
Évidemment, après quelques jours, la famille, quand même, finit par comprendre que quelque chose ne tourne pas rond. De fil en aiguille, d'appel en appel, ils se rendent bien compte que personne n'a eu de nouvelles de Danielle depuis sa fameuse sortie à la brasserie Bourget. Le SPCUM, service de police de la communauté urbaine de Montréal, hein, qui est aujourd'hui le SPVM, est donc appelé en renfort. Et à ce que je peux voir, l'affaire est quand même considérée comme sérieuse, bien que, Annie, aucun média ne couvre l'histoire. En fait, là, j'ai épluché le site de la BANQ et je n'ai rien, mais rien trouvé de l'époque. Rien. Ça me paraît incroyable, mais bon. Semble quand même que la police ait mené une enquête et entamé des recherches assez sérieuses dans le quartier industriel de Montréal-Nord. Sauf que, bon, une fois les recherches faites et qu'aucun indice ait été trouvé, j'ai l'impression que l'histoire de Daniel a juste fondu comme neige au soleil. Va falloir attendre beaucoup plus tard, presque 15 ans, pour que les membres de la famille, dont la plupart étaient très jeunes hein, au moment de la disparition de Daniel, recommencent à penser à ce terrible destin de leur sœur et se remettent à brasser le dossier pour le faire avancer. C'est donc au début des années 90 que le petit frère de Daniel, qui avait environ 15 ans au moment de la disparition de sa sœur, décide de se remettre dans cet épisode douloureux de leur vie et tente avant tout de retrouver le fameux chum de Daniel. Ben oui, celui avec qui elle s'est supposément chicanée le soir où il a disparu. Sauf que j'ai pas de misère à m'imaginer sa déception quand il apprend la nouvelle. Ce témoin, si important dans l'histoire de sa sœur, est mort quelques années plus tôt dans l'incendie de sa maison.
C'est pas vrai?
Ouais. La famille décide de contacter le réseau Enfants Retour pour avoir du soutien et pour être plus encadrée pour la suite. Puis Annie, je te parle tellement souvent du réseau Enfants Retour, mais je me rends compte que probablement plusieurs de nos auditeurs n'ont pas la référence. Je vais faire ça simplement. Est-ce que tu veux nous lire la mission qu'ils se sont donnée?
Fondé en 1985, le réseau Enfants Retour est une organisation sans but lucratif ayant une mission d'assister les parents dans la recherche de leur enfant porté disparu et de contribuer, par l'éducation du public, à la diminution des disparitions d'enfants.
Pinard Camon, qui était à ce moment-là la directrice générale, se souvient de l'arrivée de la famille Boisvert chez Enfants Retour. Elle-même, elle habitait Montréal-Nord depuis des années et raconte dans le documentaire à quel point elle avait été étonnée d'apprendre que Daniel était disparu dans son quartier alors qu'elle n'avait jamais entendu parler de ça. Je pense que ça te montre à quel point cette disparition-là est passée inaperçue à l'époque. En 1995, le frère de Daniel, qui n'a plus rien à perdre, décide de partir vers l'île du Prince-Édouard pour y chercher sa sœur.
Hein? Pourquoi?
Qu'est-ce qui le mène à faire ce long voyage de 1200 km? Et oui, Annie, les révélations d'un voyant.
Hein?
Ouais, le frère parle d'un dessin que ce voyant-là lui aurait fait. Je vais te montrer une capture d'écran de l'épisode « Nos enfants disparus » pour que tu puisses comprendre. Il y a beaucoup d'affaires sur ce dessin-là. J'imagine que le voyant a dû faire ça en transe, là. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Bref, la conclusion, c'est que Danielle est toujours vivante. Elle habite à l'île du Prince-Édouard. Je vais placer la photo de la capture d'écran sur nos réseaux. On peut, entre autres, y voir hein, un dessin d'avion, des planètes aussi, je pense.
C'est vraiment difficile à comprendre. Il y a des mots, là. Je peux-tu les lire?
Vas-y, ouais.
Lot of hurt still in...
She doesn't want to be found.
Ouais. Puis là, il y a des lettres. Ben, il y a P-E-I pour Prince Edward Island.
Ouais.
Puis il y a Maple?
Je sais pas. Ce que la phrase dit en français, c'est « encore beaucoup de douleur ».
Oui.
Elle ne veut pas être retrouvée.
Exact. Mais bon, c'est difficile à comprendre les dessins à gauche des vagues ou je sais pas, là.
Ouais.
Ouais, aïe, aïe.
Mais je suis consciente, tu sais, que rapporté comme ça, sans contexte, ça peut sembler un peu farfelu. Mm. Mais Annie, je suis convaincue que dans une optique où ce voyant-là avait l'air crédible, puis où le pauvre frère est prêt à tout pour avancer dans sa quête de retrouver sa sœur, ce genre de dessin-là ou de révélation, là, peu importe, peut être assez impressionnant pour vouloir tenter sa chance.
Ben oui, absolument.
Ben oui, puis tu l'as bien vu aussi depuis trois saisons, là. J'ai l'impression qu'une histoire de disparition sans référence à un voyant à un moment ou à un autre dans l'histoire, c'est impossible.
Non, puis je serais la première, hein? À l'essayer. Ben, à l'essayer.
Ben
si
oui, c'est ça.
Si je devais perdre quelqu'un.
Ça démontre juste à quel point on est prêt à tout pour trouver des réponses puis combler le besoin abyssal de se sentir proactif, là, tu sais. J'ai été déçue d'apprendre que le voyage à l'île du Prince-Édouard a rien donné. Et bon, étonnée, non, mais déçue, oui. S'approchant du nouveau millénaire, maintenant épaulé par le réseau Enfants Retour, la famille de Daniel se présente deux fois aux fameuses retrouvailles de Claire Lamarche. Tu te souviens,
on en a parlé
dans la saison 1. C'était une très, très populaire émission de télévision en direct. Des familles éplorées venaient faire un court témoignage visant à retrouver un proche disparu ou un parent biologique ou quelqu'un dont ils n'avaient plus de nouvelles depuis longtemps. Puis là, c'était une succession de demandes et d'histoires terribles.
Ouais.
Et pendant ces témoignages-là, des Colombos, donc, des recherchistes recevaient des centaines d'appels et parfois, on arrivait à réunir en direct des gens.
C'était déchirant, cette émission-là. Je pleurais, là.
Quel concept!
Hey, c'était un happening, hein, quand c'était annoncé, là. Bon, ce soir, mon Dieu, il annonce un autre.
Incroyable.
Un autre épisode des retrouvailles de Claire Lamarche. Puis là, on s'installait, puis là.
Ah ouais, vraiment.
C'était incroyable, là. Puis c'est plate qu'ils en font plus de ça, parce que je suis sûre qu'à quelque part...
Ah ouais, ça fonctionnait.
Ça déliait les langues, puis ça fonctionnait.
Je suis certaine
aussi.
Pourquoi
ils font plus?
Autour des mêmes dates, on fait paraître deux portraits vieillis de Daniel. Deux looks différents. Ce que je trouve vraiment brillant. Je te montre les photos, Annie. Tu vois, on a une photo, disons, un peu plus standard, sobre. Et l'autre qui montre Daniel... je sais pas, un peu plus un look de la vie de tous les jours, tu sais. J'ai quand même trouvé ça intéressant comme démarche. Ça ouvre davantage les possibilités, non? J'ai pas vu ça souvent, mais j'ai trouvé ça vraiment pertinent de donner plusieurs looks au portrait parce que, tu sais, hey, on va se le dire, là, les chances pour viser direct dans le mille avec un seul portrait vieilli sont assez minces. Est-ce que ce sont ces mêmes photos qui ont amené le premier indice convaincant dans l'affaire de Daniel? Probablement. Parce qu'en 98, la famille de Daniel reçoit un coup de fil de la GRC, donc la Gendarmerie royale du Canada, et ce coup de fil provient de la division de la Colombie-Britannique. Je suis pas capable de te dire exactement où en Colombie-Britannique, mais je peux te dire que on croit avoir repéré Daniel dans la région. L'histoire est assez fascinante. Une travailleuse sociale a eu besoin de venir dans le bureau de la GRC pour un autre dossier complètement. Et sur les murs, elle a aperçu la photo de Daniel sur l'affiche recherchée. Elle rapporte alors aux agents qu'elle connaît cette femme sur la photo et qu'elle est absolument certaine de l'avoir côtoyée dans le cadre de son travail.
Mais voyons donc!
Ouais. Bon, ben honnêtement, Annie, là, je sais pas trop pourquoi la GRC a rapporté ça aux parents parce que plus rien ne découle de cette information-là ensuite. Sinon, bon, qu'il y a une possibilité que Daniel soit 20 ans après sa disparition quelque part en Colombie-Britannique.
C'est bizarre que ça soit à l'autre extrémité du Canada.
Complètement bizarre.
Tu sais, t'as eu l'île du Prince-Édouard d'un bord, puis là, ils ont complètement à l'autre extrémité.
Ouais. C'est probablement pour cette raison-là que la GRC va rappeler le clan Boisvert en 2002, d'ailleurs. Cette fois, pour avoir de l'ADN des membres de la famille. Pourquoi? Pour comparer avec les restes humains retrouvés sur la ferme du tueur en série Robert Picton.
Non!
Ouais!
Ben non!
Tu te souviens, la fameuse ferme aux cochons en banlieue de Vancouver?
Oh mon Dieu!
Ouais, où Picton attirait les travailleuses du sexe et autres femmes vulnérables avant de les assassiner, de les enterrer sur son terrain.
Ben voyons, quelle horreur!
Ouais, c'est vraiment à glacer le sang, cette histoire-là.
Ben oui!
Bon, heureusement, sans doute, il n'y a aucune trace de concordance d'ADN dans les deux dossiers. Je dis heureusement, mais bon, encore une fois, pour la famille, ça se résume à retourner à la case départ.
Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont dû vivre?
Incroyable.
Oh, mon Dieu!
Depuis ces derniers événements-là, je retrouve malheureusement pas grand-chose de plus qui s'ajoute aux actions déjà posées pour Daniel. On raconte qu'une page Facebook a été créée en 2009, mais je l'ai pas retrouvée. Je sais pas si elle est encore active. On ajoute aussi que, bien entendu, depuis le temps, toutes les vérifications ont été faites, qu'aucune activité a été décelée dans le compte de banque de Daniel en aucun moment depuis tout ce temps-là. C'est très touchant parce que le discours de la famille est le même, hein? Après 4 décennies passées dans l'ignorance totale, ce qu'ils veulent réellement, ce n'est pas de trouver un coupable. Ce qu'ils veulent, c'est retrouver Daniel. Le qui, le comment, ils peuvent s'en passer. Mais d'elle, jamais. L'épisode de nos enfants disparus se termine d'ailleurs sur une note absolument bizarre. La sœur de Daniel présente une carte postale reçue à la maison familiale à l'attention de Madame Danielle Boisvert, provenant d'Italie, signée par une Micheline. Bon, j'ai essayé tant bien que mal là, de déchiffrer ce qu'on peut lire sur la carte en gelant mon écran d'ordi, mais je suis pas arrivée à grand-chose. Ça semble être une description tout à fait banale d'une journée de touriste à ce que j'arrive à lire, ouais. Ce que la sœur de Daniel raconte, c'est que cette carte-là serait arrivée à la maison des années après la disparition de Daniel. Et cette Micheline-là, là, personne n'est capable de la replacer. C'est quand même bizarre. Elle lance donc un appel au public pour la retrouver, cette femme-là. La famille veut savoir d'où elle connaît Daniel, puis pourquoi, des années après sa disparition, elle envoie une carte postale de l'Italie.
Mais voyons donc, c'est en quelle année ça, on le sait-tu?
Non.
Mais tu sais, Michel, dans le fond, c'est peut-être juste quelqu'un qui cherchait une adresse d'une Danielle Boisvert qui a fouillé dans des bottins. Ben, c'est sûr qu'à partir d'Italie, c'est bizarre, mais...
Ah, t'as raison.
Moi, je pense que c'est peut-être juste une erreur sur la personne.
Ça se peut.
Mais
c'est quand même
étrange. C'est tellement triste pareil, là. Ouais. Je veux dire, tu reçois ça, tu fais le choc, c'est sûr.
C'est sûr. Mais ce qui fonctionne pas dans ton hypothèse, c'est que Danielle Boisvert était plus listée dans le bottin du tout, tu sais.
Attends, ça avait été envoyé à quelle adresse?
À son adresse familiale. De sa maman.
Ben voyons donc, mais putain, elle habitait même plus là.
Non. Ouais, mais ça faisait pas longtemps qu'elle était déménagée.
Ah, mon Dieu, c'est non bien étrange.
J'arrive mal à m'expliquer qu'à Montréal, une si jeune fille, à peine majeure, sans histoire, ait pu disparaître aussi discrètement et sans faire les vagues que ça aurait dû faire, que ça doit faire. Et parce que ce drame-là est si effacé et si peu documenté, on dirait que le silence à propos de l'histoire de Danielle se perpétue. C'est pour ça que j'ai décidé d'en parler aujourd'hui, parce que des fois, là, il faut répéter l'histoire, même si les détails qu'on connaît sont bien peu nombreux. Pour la famille, une disparition, là, ça n'a rien de discret ou de banal, peu importe les circonstances, peu importe la couverture médiatique. Encore ici, Annie, une note pour cette famille résiliente. Cette maman qui, comme dans tellement trop de familles de disparus, semble avoir été frappée par un aura de drame terrible. Elle qui aura aussi dû survivre à la mort d'un de ses fils et au suicide de son mari. Qu'est-ce qui s'est donc passé avec Danielle Boisvert, le 7 novembre 1979, juste à la sortie de la brasserie Bourget? Encore un mystère bien québécois dont on attend toujours les réponses.
Pour mon segment d'aujourd'hui, Michel, je suis tombée sur une histoire toute particulière qui raconte le combat d'un homme à travers le système judiciaire. Une quête de vérité et de justice qui s'étendra sur plusieurs décennies. Des histoires d'erreurs judiciaires, on en connaît tous, je pense. Hein. Certaines sont très populaires, surtout chez nos voisins du Sud, aux États-Unis. Là. On en connaît des très médiatisées. Et si je te dis le nom de Adnan Saïd, j'imagine que tu sais de qui je te parle. Hein. Ouais. Son histoire a été racontée dans le très populaire balado Serial il y a quelques années. Puis on a réentendu parler de lui en 2022, puisque M. Saïd a finalement été libéré suite à une preuve d'ADN, mais qui a prouvé son innocence après avoir passé plus de 20 ans en prison. Mais ça, c'est un cas parmi des milliers et malheureusement, la grande majorité de ces victimes d'injustice-là, ils sombrent souvent dans l'oubli, sans ressources, puis subissent leur peine sans pouvoir se battre. À plus petite échelle, on en a aussi des histoires au Québec, des victimes d'erreurs judiciaires ou de procès inéquitables. Puis justement, je suis tombée sur une histoire révoltante qui s'est étendue sur plus de 50 ans, Michel, soit entre 1961 et 2015. Voyons. Laisse-moi te raconter l'histoire du très long combat judiciaire de M. Régent Hinze. Son nom sonne peut-être une cloche puisqu'il a été nommé plusieurs fois dans les grands médias dans les dernières années, mais son récit a débuté bien avant, soit le 18 décembre 1961, au moment où, par un malheureux concours de circonstances, il a été appréhendé par la police comme suspect important dans une histoire de cambriolage armé dans la ville de Mont-Laurier, dans les Laurentides. Et ce, pourtant, sans jamais n'avoir mis les pieds dans cette municipalité-là avant ce jour-là. Avant d'embarquer dans les détails, laisse-moi te parler un peu de M. Hinze. En 1961, il était au début de sa vingtaine. Il habitait Montréal en compagnie de sa jeune conjointe Janine, puis le couple attendait leur premier enfant. Elle était enceinte de 3 mois seulement à ce moment-là, donc Régent mettait les bouchées doubles afin de pouvoir subvenir aux besoins de sa petite famille en devenir. J'ai pas trouvé énormément d'informations sur les détails de sa vie, mais on apprend via un documentaire que j'ai trouvé sur YouTube via la chaîne Real Crime que Régent Hinze est devenu orphelin à l'âge de 3 ans. Sa mère a eu 2 enfants, d'abord Régent et plus tard sa sœur. Sauf que, en raison de leur situation très précaire, suite au départ de son mari, bien, la mère de Régent a dû prendre la déchirante décision de laisser le plus âgé de ses 2 enfants à l'orphelinat. Régent a donc été séparé de sa mère et de sa sœur.
Horrible.
Il raconte de vive voix dans le documentaire le souvenir de cette déchirure. Il l'avait vécu, lui, tout l'amour d'une mère, là, contrairement à d'autres enfants qui étaient orphelins de naissance. Il se rappelle avoir énormément pleuré. Michel, il avait 3 ans.
Horrible.
Bien que le documentaire n'entre pas dans les détails de son développement futur, on peut imaginer les défis qu'il a dû rencontrer en grandissant suite à l'abandon qu'il a vécu. C'est pourquoi M. Hinze, bien qu'il a eu un parcours plus rock'n'roll que la moyenne des gens, je dirais, il avait à cœur le bien-être de sa femme et de son futur enfant. C'était un homme bon, Régent Hinze, là, malgré le parcours rocailleux des dernières années. Il n'a pas toujours eu les bonnes fréquentations, il n'a peut-être pas toujours fait les meilleurs choix, mais une chose est certaine, à ce moment-là, sa priorité, c'était sa famille. Puis Régent, il était très doué en mécanique. Puis il mettait la main sur des véhicules usagés, il les réparait, il les renipait, comme on dit, là, puis il les revendait en faisant un peu de profit. Pour mieux comprendre le fil des événements, je te ramène au 4 décembre 1961, deux semaines précisément avant son arrestation au poste de police de Mont-Laurier. À Montréal, il possédait deux belles Cadillacs, dont une nouvellement remise à neuf pour laquelle il avait trouvé un acheteur potentiel du nom de Laurent Beausoleil. L'acheteur propose de pouvoir tester la voiture pendant une semaine avant de finaliser la vente, un peu pour tester la marchandise, si on veut. C'est pas clair à savoir si les deux hommes se connaissaient déjà, mais Régent, ben, il était bien à l'aise avec le plan, donc Beausoleil est parti avec la Cadillac comme prévu. Sauf qu'au bout de quelques jours, Régent va s'inquiéter de ne pas avoir de nouvelles de son acheteur. C'est deux semaines plus tard, le 18 décembre, que Beausoleil va refaire surface et qu'il va annoncer à Régent que le moteur de la Cadillac a lâché puis qu'il a dû laisser le véhicule dans un garage près de Mont-Laurier dans les Laurentides. On parle d'un bon trajet de 2h30 de Montréal environ, là. Régent trouve ça un petit peu bizarre, puis il va insister pour tourner sur place avec Beausoleil pour aller récupérer sa voiture. Sauf que, ben, Beausoleil, ben, il est contrarié. Ça lui tente pas de remettre les pieds à Mont-Laurier. En fait, c'est pas compliqué. Beausoleil, là, c'est un bandit. La raison pour laquelle il s'est rendu aussi loin avec la voiture, là, ben, c'était pas juste pour tester sa mécanique, mettons. Sans surprise, Michel, les choses vont se compliquer une fois arrivé au garage. Le garagiste explique aux deux hommes que M. Hinz va devoir aller signer une décharge au poste de police de Mont-Laurier puisque la voiture a été déclarée volée. En fait, ce qui est arrivé, là, c'est que le garagiste dit avoir reçu le véhicule via un certain jeune homme, Hugues Duval, qui est un compagnon de Beausoleil. Il lui aurait laissé la Cadillac en panne quelques jours avant. Essaie de retenir le nom de Hugues Duval parce que je vais y revenir plus tard, Michel.
OK.
En voyant que les papiers d'enregistrement étaient au nom d'un certain Régent Hinz de Montréal, mais le garagiste a décidé de la déclarer volée à la police.
Ah.
Ouais. Régent va donc se rendre au poste de police de Mont-Laurier afin d'aller signer la dite décharge pendant que Beausoleil, lui, décide de l'attendre dans un casse-croûte. Et Michel, c'est précisément en mettant les pieds dans le poste de police que le destin de Régent Hinz va prendre une tournure cauchemardesque. Puisque deux victimes d'un cambriolage armé qui a eu lieu quelques jours avant se trouvent aussi au poste.
Okay.
Bizarrement, au bout de quelques minutes seulement, le caporal Bourgeois, le responsable du poste, va demander à Régent de se présenter devant les victimes.
Ah.
Il demande même de les regarder droit dans les yeux.
Qu'est-ce que c'est ça?
Oui, écoute, Régent, là, il est confus, mais il va suivre les consignes des policiers sans trop comprendre ce qui se passe. Il reste là, immobile, pendant qu'on l'observe. Plus le temps avance, plus il se rend compte que la situation devient grave. Michel, on l'oblige à participer à des identifications de témoins. Là. Tu sais, quand on aligne 4-5 suspects côte à côte devant des victimes qui sont normalement derrière un miroir, là? Dans l'article de la presse du 20 avril 1994, on décrit ça comme un vaudeville parce que la situation devient complètement absurde puisqu'on demande à Régent, devant les victimes, d'enfiler un chapeau noir puis une veste de cuir.
Voilà.
Puis on l'aligne parmi d'autres détenus qui, eux, sont habillés en tenue de prisonnier. Et dans la ligne, il y a aussi des faux suspects qui sont, en fait, des policiers habillés en complet cravate. OK? Tu t'imagines comment...
Je s'en vois, là.
Oui, comment Régent, il ressort du lot, là. On lui demande ensuite de dire à plusieurs reprises la phrase « Ferme la lumière, puis monte en haut ». Imagine le sentiment de confusion que devait ressentir M. Hinz.
Lui, il venait signer un papier pour son auto-volé.
Pourquoi qu'on me demande ça? Exactement, il venait simplement récupérer son véhicule.
Est-ce que c'est un guet-apens?
Ben, écoute, l'approche des policiers, là, est loin d'être courtoise aussi, là. Donc, Régent, à ce stade-ci, ne comprend absolument rien de ce qui se passe. Le même manège, la file d'identification, va recommencer 3-4 fois, toujours de la même façon. Entre-temps, on l'amène dans la cellule du poste, là. Ensuite, on le fait revenir devant les victimes. Il est en état d'arrestation. Ça dure des heures et jamais, Michel, à aucun moment, on lui explique la raison et jamais on l'autorise à passer un coup de fil, ni pour un avocat, ni pour aviser sa femme de ce qui se passe. Il est dans l'incompréhension la plus totale. Il se sent complètement ridiculisé et humilié.
Oh.
Ce sera finalement... au bout de 48 longues heures, que Régent sera enfin interrogé sur sa supposée implication dans le cambriolage en question et qu'on va lui permettre de faire un appel. il va subir un interrogatoire d'à peine 30 minutes durant lequel il va essayer d'expliquer qu'il y a une erreur sur la personne. Il essaie tant bien que mal de leur dire qu'il n'a jamais participé au vol, mais personne n'est intéressé à entendre sa version des faits. Laurent Beausoleil sera aussi mis en état d'arrestation au même moment. Puis Michel Beausoleil, qui lui a bien participé au cambriolage, on s'en doutait bien, ne sera jamais interrogé par la police à savoir si Régent Hinze faisait partie de la bande ou non. Monsieur Hinze va finalement recevoir la visite d'un avocat de Mont-Laurier, maître Henri Courtemanche, qui va lui proposer de prendre sa défense, malgré le fait que Monsieur Hinze souhaitait obtenir les services d'un avocat de Montréal. Mais Maître Courtemanche va le convaincre en lui disant qu'il a une excellente relation avec le juge, donc que ce sera facile de l'acquitter à son procès. Ben Régent, il va accepter, sans se douter que cette décision-là allait changer le cours de sa vie. Quelques jours plus tard, ce sera 5 000 de caution qui sera demandé pour permettre à Régent de retourner chez lui. Le montant sera finalement payé avec l'aide de sa famille et c'est en début janvier, donc après avoir passé tout le temps des fêtes en prison, qu'il va retrouver Jeannine. Il va mettre tous les efforts pour retrouver des témoins qui seraient susceptibles de prouver sa présence à Montréal le 14 décembre, jour du cambriolage. Il va s'écouler près de 2 ans jusqu'à son procès qui va avoir lieu au Palais de justice de Mont-Laurier devant le juge Omer Côté. Avant d'embarquer dans les détails, laisse-moi te raconter le déroulement des événements du 14 décembre 1961, le jour du cambriolage à Mont-Laurier. Monsieur et Madame Grenier sont un couple de commerçants, propriétaires du magasin général de la ville. Leur appartement où ils habitent se trouve directement au-dessus du magasin. En soirée, 5 hommes armés entrent de force dans l'appartement des Greniers. Le couple se fait battre et ligoter à la pointe de revolver pendant que le reste du gang fouille leur domicile à la recherche d'argent. Il va s'écouler plusieurs minutes, presque 1 heure en fait, avant que les voleurs quittent enfin les lieux avec de l'argent et d'autres effets personnels de valeur qui appartiennent au couple Grenier. C'est M. Grenier qui va réussir par lui-même à se libérer une fois que les hommes sont partis. Ils vont s'en sortir sans blessure grave, mais on peut présumer avec un bon choc nerveux. Ils seront les uniques témoins du côté de l'accusation dans le cadre du procès de Régent Hinze. Accusation basée uniquement, Michel, sur la saga ridicule d'identification qui s'est déroulée 4 jours après le cambriolage, où il n'y a eu aucune présomption d'innocence à l'égard de M. Hinze de la part des autorités à ce moment-là.
C'est terrible.
Aucun des autres suspects appréhendés pour le cambriolage ne seront appelés à témoigner afin de prouver qu'ils ne faisaient pas partie du groupe. En fait, Michel, là, les 2 seules personnes interrogées dans le cadre de l'enquête préliminaire sont M. et Mme Grenier. Comment tu peux monter un dossier d'accusation avec si peu d'éléments de preuve?
Ouais, voyons.
Toujours à partir du documentaire de Real Crime, on entend M. Hinze expliquer qu'il se sentait comme un spectateur à son propre procès parce que pour lui, là, c'était impossible de faire des liens à travers les événements racontés parce qu'il n'était juste pas là pendant le cambriolage.
Incroyable.
Il y a un des témoins de la défense qui va venir démontrer que Régent était bien à Montréal le 14 décembre 1961, puis qu'il avait en main un reçu signé de la main de M. Hinze. Mais cet alibi-là, Michel, ne sera pas retenu par le juge sous prétexte que la preuve a été présentée trop tard et que ça semble être une fabrication de la défense.
N'importe quoi!
Son avocat, Maître Courtemanche, ne poussera pas plus loin la question et surtout ne mettra jamais en lumière les circonstances douteuses au moment de son arrestation au poste de police qui aurait très bien pu dénoncer comme une tactique abusive.
Mais là...
Jamais le travail des policiers ne sera mis en doute dans l'enquête. Un policier, Arthur Scott, aurait même affirmé avoir vu M. Hinze près de la maison de M. et Mme Grenier quelques jours avant le vol dans une voiture avec les autres complices. Donc, bien évidemment, ça venait contredire la version de Régent Hinze qui disait qu'il n'avait jamais mis les pieds à Mont-Laurier. Cette affirmation-là va avoir un impact majeur dans la finalité du procès. C'est sans surprise que le verdict de culpabilité sera prononcé et qu'une sentence de 15 ans de prison sera annoncée en novembre 1964.
Voyons!
C'est un Régent Hinze abattu qui franchira les portes du centre de détention. Un homme abattu moralement, mais physiquement, Michel. M. Hinze a raconté à José Lito Michaud en 2020, dans le cadre de l'émission « José Lito au cœur du monde » sur Radio-Canada, qu'une fois enfermé entre les quatre murs de sa cellule, il a développé des maux de tête foudroyants et incessants. Il avait tellement mal qu'il a pris l'habitude de se frapper la tête de manière répétitive sur les murs de sa cellule.
Ah!
Ça lui permettait de se concentrer sur le mal externe de son crâne plutôt que sur la douleur de ses migraines.
Ah!
Ça a duré des semaines et des semaines.
Insoutenable. C'est le mot insoutenable. Puis j'ai commencé à me cogner la tête sur les murs parce que c'était dans le front, surtout au-dessus des yeux ici, là. Jusqu'à temps que le mal que je me faisais puisse prendre le dessus sur l'autre mal que je ressentais.
Des mois, Michel, à ne plus avoir aucune confiance en la justice et à se méfier de l'autorité. Quel sentiment d'impuissance que tu dois vivre.
Incroyable.
Jusqu'à ce qu'une force, une rage intérieure lui donne enfin le courage de se battre pour prouver son innocence. Va s'en suivre, Michel, une interminable bataille dans laquelle M. Hinz tentera non seulement de prouver qu'il a été emprisonné injustement, mais que l'État et le système judiciaire ont échoué considérablement à le protéger en tant qu'homme innocent. Au fur et à mesure que sa peine avance, il va se documenter sur ses droits, sur les démarches qu'il devrait entreprendre pour réussir à prouver son innocence. À travers tout ça, Régent Hinz va entendre de plus en plus de détails via des déclarations de détenus concernant le fameux cambriolage du 14 décembre 61. Puis, en 1966, bingo! Après 2 ans d'incarcération, il va entrer en contact avec un certain prisonnier du nom d'Yvon Savard, qui, lui, va avouer avoir participé au braquage, et c'est sous les demandes répétées de M. Hinz qu'il va finalement accepter de signer une déclaration sous serment indiquant la non-implication de Régent Hinz dans le cambriolage.
Mais là, Savard, il est en prison?
Oui, il est okay. En prison. Encore mieux, Michel, Laurent Beausoleil lui-même, qui a accompagné Régent à Mont-Laurier et qui a aussi été reconnu coupable d'avoir participé au cambriolage, va suivre le pas et aussi signer la déclaration.
Mais eux autres, ça leur tentait pas de parler avant, là, je veux dire.
Moi, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas été entendus. Suite à quoi, M. Hinz va écrire plusieurs lettres afin de demander la tenue d'un nouveau procès. Il va écrire à différents organismes et ministères, lettres qui ne seront jamais répondues. C'est après avoir purgé le tiers de sa peine, soit après 5 ans, que Régent Hinz va pouvoir bénéficier de sa libération conditionnelle en 1969. Mais sa sortie de prison va pas mettre fin à sa soif de justice, bien au contraire. Après avoir vécu un cauchemar qui a duré plus de 1800 jours entre les murs de sa cellule, il va continuer ses démarches sans relâche jusqu'à ce que finalement il soit entendu.
Bon.
En 1981, 12 ans après sa sortie de prison, il va mettre la main sur son rapport de fin de sentence du service pénitentiaire et Michel, c'est absolument crève-cœur ce qu'on peut y lire. Et d'ailleurs, M. Hinz va lire un passage dans l'émission de Joselito Michaud dont je te parlais. Pourrais-tu nous lire un extrait? Je t'avertis, c'est vraiment choquant et aberrant que ça puisse se retrouver dans un rapport comme celui-là.
Tout le long de sa sentence, il a développé le sentiment de non-culpabilité. Et à force de le faire croire aux autres, il en est venu à le croire lui-même. Pour jouer entièrement sa tragico-comédie, il s'est tourné vers l'autodidactie. Bouquins savants, dictionnaires de toutes épaisseurs sont alors apparus sur sa table de travail. Ils ont surtout eu pour effet de meubler sa cellule au lieu de son cerveau. Individu déficient, semi-conscient, il n'est pas fou, il est malade mentalement. Aïe aïe.
C'est-tu assez violent?
Aïe aïe.
C'est terrible, là. Il n'a jamais eu conscience que c'était la perception qu'on avait de lui à l'époque, là. Imagine le choc. Ça va lui donner encore plus d'énergie dans sa bataille. Et Michel, ça va finir par porter fruit, parce que c'est 20 ans après sa libération en 1989 qu'on va finalement lui ouvrir une porte. La commission de police du Québec va mandater un enquêteur en déontologie, Jean-Louis Fourcodeau, à refaire le fil des événements en fonction de tout ce que Régent Hinz a accumulé avec les années.
Mmh.
On parle de plusieurs documents et de divers renseignements. Et cette enquête-là va faire en sorte qu'un rapport sera remis au procureur général du Québec en 1990, puis va lui permettre enfin de pouvoir aller en appel de son jugement de 1964.
Le rapport indique clairement que l'enquête réalisée par les policiers de Mont-Laurier était pourrie, et c'est vraiment le terme utilisé,
wow.
Et surtout que le procès de 1964 a été inéquitable. On note d'ailleurs des lacunes importantes dans la version des faits de M. et Mme Grenier qui, à aucun moment, n'ont été en mesure de fournir des informations précises sur l'aspect physique de M. Hinze, tant au moment de l'enquête que durant le procès. Dans le rapport, on mentionne aussi la déclaration du policier Scott. C'est celui qui dit avoir vu Régent Hinze près de la maison des Greniers, là, dans la voiture. Eh bien, semblerait que le même policier ait finalement avoué à l'enquêteur Fourcoudeau qu'il n'a aucun souvenir d'avoir aperçu Hinze à Mont-Laurier, comme il l'avait dit au procès.
Pourquoi tous ces gens-là se braquent contre un innocent? Dans le sens où je peux comprendre que t'es pas 100% certain qu'ils soient innocents et tout. Surtout quand c'est des crimes portés par une seule personne. Mais là, ils sont plusieurs.
Ils sont plusieurs.
Il y en a un là-dedans qui vous, tu sais, je veux dire, pourquoi vous mentez? Pourquoi vous vous sentez obligé de...
Pourquoi tant d'efforts?
Ouais, c'est bizarre.
C'est très, très bizarre.
De plusieurs personnes, à ce que je peux voir.
Oui.
Là, de A à Z, là. Ouais. C'est l'enfer.
Puis s'ils l'ont fait pour lui.
Ouais, exact.
Pour d'autres.
C'est sûr.
Ouais. Aussi, il va confirmer que des témoins clés qui auraient dû témoigner au procès de M. Hinze ne l'ont jamais fait. Je parle ici des autres suspects impliqués dans le cambriolage. C'était des procès en simultané, dans le même palais de justice, devant le même juge. Des témoignages qui auraient possiblement nui à la défense des différents accusés.
Mmh.
Les avocats s'étaient donc entendus entre eux, Michel, pour qu'aucun des suspects ne témoigne au procès des autres. On parle des avocats de la défense!
C'est tellement bizarre.
C'est pas pour rien que le maître Courtemanche, celui qui a si mal défendu Régent Hinze, a été radié du barreau quelques années plus tard.
Oh, thank God.
Ouais. Un autre élément complètement aberrant, encore une fois, on apprend que le caporal Bourgeois, celui qui a intercepté Régent au poste de police de Mont-Laurier le 18 décembre, eh bien, ce même monsieur-là travaillait aussi à l'époque dans une entreprise de vente pyramidale tenue par, tiens-toi bien, un certain Hugues Duval.
Voyons!
Le même Hugues Duval qui a laissé la voiture de Régent Hinze au garage près de Mont-Laurier. Et ce n'est pas tout! Le Hugues Duval en question aurait été soupçonné dès le début par M. Grenier, la victime du cambriolage, parce qu'il aurait su que Duval aurait planifié le coup avec un de ses neveux, Michel. Je suis tellement enragée. Mais pourtant, malgré la déclaration de M. Grenier, Hugues Duval n'a jamais été questionné ou arrêté comme suspect et pire encore, tu vas crier, là. Duval a même avoué à l'enquêteur Fourcoudeau en 90 qui avait à l'époque informé le caporal Bourgeois que Régent Hinze n'avait pas participé au vol.
Mais pourquoi tant d'acharnement?
Je le sais pas. Je sais pas. C'était pour protéger Duval. Il était de mèche avec le caporal.
Que c'est bizarre.
Ils ont voulu faire accuser Régent Hinze à la place de Duval, probablement, là, tu sais.
Oh.
Donc, suite à la sortie du rapport de l'enquête Fourcoudeau, c'est en 94, 30 ans après avoir été déclaré coupable, que M. Hinze va retourner dans une salle d'audience, cette fois-ci devant la Cour d'appel du Québec. Étrangement, malgré le rapport détaillé, la Cour d'appel ne prononcera pas un vrai verdict d'acquittement.
Ah.
Non. Ce pourquoi M. Hinze se bat depuis 30 ans, là. La Cour d'appel va simplement casser le jugement de culpabilité obtenu en 64 et ordonner l'arrêt des procédures. C'est une victoire inachevée pour M. Hinze. C'est donc vers la Cour suprême du Canada que lui et son avocat vont décider de se tourner afin d'obtenir un vrai verdict d'acquittement à la lumière des preuves présentées.
Ouais.
Sauf que Michel, la Cour suprême va refuser d'examiner le dossier à ce moment-là.
Oh.
On est en 1995. Mais à l'aide de son avocat, Régent lâchera pas le morceau. Il va continuer à mettre temps et beaucoup d'argent pour faire valoir ses droits. Et ça va prendre encore deux longues années de démarches judiciaires pour que sa cause soit enfin entendue devant la Cour suprême du Canada le 21 janvier 1997. Et c'est lors de cette audience que les sept juges prononceront enfin à l'unanimité l'acquittement de M. Hinz après 35 ans de bataille.
Incroyable.
C'est dans l'article du journal Le Devoir du 22 janvier 97 qu'on explique que les juges n'ont mis qu'une quinzaine de minutes pour délibérer à huis clos et en venir à leur décision. Le juge Charles Gontier a d'ailleurs précisé que la preuve présentée lors du procès de M. Hinz en 64 n'était pas suffisante et n'aurait pas dû entraîner un verdict de culpabilité. Ah, c'est une victoire énorme pour Régent Hinz. Pourrais-tu lire sa citation dans un des articles de la presse qui date aussi du 22 janvier 97?
C'est difficile de décrire mes sentiments. Je suis tellement ambivalent quand je fais le bilan des 35 années de revendications, de luttes pour en arriver à ce résultat. C'est sûr que je suis satisfait d'avoir été acquittée, mais c'est lors du procès que j'aurais dû l'être. En fait, j'aurais même pas dû être accusée. Hey, c'est tellement vrai. Là.
Hey.
Tu sais, quand tu y penses, là, le système judiciaire là, a complètement fait dévier la vie de ce monsieur-là. Ils lui ont complètement volé sa vie.
Ouais. Ils lui ont fermé les portes aussi.
Parce que même s'il était plus en prison...
Ouais.
Après, il refusait quand même de l'écouter. Puis, je veux dire, ça a consumé sa vie au complet, là.
Ouais.
Ah, c'est d'une... Je suis enragée.
Oui, oui. C'est pourquoi M. Hinz ne va pas terminer sa lutte en 97 avec l'acquittement. Il va tenter de réclamer une somme d'argent en dommages et intérêts, puis lancer un recours en responsabilité civile contre le procureur général du Québec, le procureur général du Canada et la ville de Mont-Laurier. 13 ans, Michel, vont ensuite s'écouler.
Oh.
On est rendu en 2010, bientôt 50 ans après son accusation en 61. M. Hinz va réussir à s'entendre avec le gouvernement du Québec qui va enfin admettre son innocence et offrir une compensation de 5,3 millions de dollars, ce que Régent Hinz va finalement accepter avec un grand soulagement.
Mais là...
La ville de Mont-Laurier, quant à elle, va verser près de 250 000 $ en guise de compensation.
C'est pas beaucoup.
Pour ce qui est du gouvernement fédéral, la tâche s'est avérée plus ardue. Plutôt que de négocier une entente sur un montant compensatoire comme l'a fait le procureur général du Québec, ben le gouvernement du Canada a décidé de régler la question devant la Cour supérieure.
Oh.
Donc, encore une fois, un long processus judiciaire pour M. Hinz. Verdict du procès, la juge Hélène Poulin, qui présidait, a ordonné à Ottawa de verser à M. Hinz un montant qui frôle les 9 millions de dollars.
Yes.
Une belle victoire, hein? Sauf que Michel, le gouvernement fédéral, va faire appel de la décision et le jugement sera finalement renversé en 2013 lors d'un nouveau procès en cour d'appel.
Ah.
C'est interminable. Suite à ça, M. Hinz va tenter une dernière fois auprès de la Cour suprême du Canada de faire réviser la décision et c'est en 2015 qu'il va officiellement perdre la bataille contre le gouvernement canadien. Régent Hinz ne recevra pas un sou de la part du gouvernement fédéral, même encore aujourd'hui. Voici ce qu'il va déclarer lors d'une entrevue à Radio-Canada.
Évidemment, à première vue comme ça, c'est décevant. Mais selon les grandes lignes, suite à la discussion que j'ai eue avec mes avocats, il y a bien des choses quand même qui, apparemment, auraient fait avancer le droit. Alors, c'est tant mieux.
Quelle résilience, hein?
Vraiment.
M. Hinz se disait malgré tout serein avec la décision, mais il était surtout content que ce soit la fin de sa saga judiciaire après une bataille de plus de 50 ans, Michel.
Tu dois te sentir à la fois content, mais dans un néant complet. C'est la bataille de ta vie.
Épuisé.
Tu fais quoi le lendemain matin quand c'est fini, tu sais?
Comment lâcher prise de ça?
Ben, c'est ça.
Il a toujours eu l'appui de sa famille. Il a eu une deuxième femme dans sa vie, mais il est resté longtemps avec Janine, avec qui il a pu voir son fils Christian grandir une fois sorti de prison. Puis aujourd'hui, Christian raconte qu'il a toujours cru en l'innocence de son père. Dès qu'il a eu 10 ans, son père lui a expliqué qu'il avait fait de la prison quelques années auparavant. Puis Christian, bien, il n'en avait jamais souffert de ça, puisqu'il allait le visiter régulièrement. Puis à chaque fois, sa mère, Janine, bien, elle lui disait simplement qu'il allait visiter son papa à l'hôpital.
Oh!
Ben oui. Il a pu garder une relation solide avec lui. Il l'a accompagné tout au long de ses démarches judiciaires et j'espère sincèrement qu'aujourd'hui, 62 ans plus tard, M. Hinz, qui doit être âgé autour de 85 ans maintenant, là, puisse profiter pleinement de ce nouveau chapitre de sa vie qu'il a enfin entamé. Je salue la force d'esprit et le courage de cet homme-là à avoir voulu changer et faire avancer les choses dans un système judiciaire solide qui présente encore des failles, mais qui, heureusement, évolue grâce à des combats d'une vie qui sont menés par des victimes d'injustice, comme l'aura été M. Réjean Hinze pendant plus de la moitié de sa vie. Une pensée toute particulière pour ces victimes condamnées par l'incompétence et la mauvaise foi d'une minorité de représentants du pouvoir exécutif et législatif. Des victimes qui ne seront malheureusement jamais entendues et qui garderont injustement le statut de criminel pour le restant de leur vie.
Si vous avez des informations suite à la disparition de Daniel Boisvert, n'hésitez pas à contacter la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.
Captive est enregistrée au studio Madame Wood à Montréal. Un concept et une réalisation d'Annie Lorrain et Michel Ouellette. Montage et habillage sonore, Vincent Blain. Thème musical, l'indice.